À une époque où règne la confusion.
Voici Les Buissonnières, l'émission mensuelle de la Maison de l'Écriture consacrée à la littérature en chantier, chez les petits, comme les grands, les pauvres, comme les riches, en ville ou à la campagne, partout où le langage fleurit. En ce mois de juin si troublé, nous avons décidé de diriger notre micro vers les rêves, ces constructions si intimes, mais aussi si puissantes et collectives qu'elles peuvent faire descendre des millions de personnes dans les rues. Et c'est au coin d'une rue, dans un de ces lieux dits alternatifs qui forment de petits sas d'oxygène dans un monde de plus en plus irrespirable, que j'ai rencontré Luciole. Non seulement Luciole rêve, comme vous et moi, mais elle écrit ses rêves, ce qui n'est pas banal. Bonjour Luciole.
Salut. Alors,
comment, avec un nom de lumière comme ça, vis-tu tes rêves? Est-ce que c'est important pour toi dans ta vie? Est-ce que c'est important les rêves?
C'est important parce que je les note déjà, donc ouais, il y a une certaine...
Et tu les notes depuis longtemps?
Commencé vers 2008.
Ça fait un bon paquet
d'années. Du coup, ça fait un petit moment, ouais.
Ouais.
Je note pas tout. C'est des périodes où je rêve beaucoup, des périodes où j'ai l'impression de pas rêver beaucoup, c'est juste que je les oublie. Et du coup, ouais, des fois, ça suit, il y a des trucs qui reviennent. Après, on peut faire des analyses ou pas, mais déjà de les noter, c'est pas mal.
Est-ce que tu te sers de tes rêves dans ta vie? Est-ce que tu te dis, j'ai rêvé ça, c'est prémonitoire, ou alors ça veut dire que...
Ouais, il y a des sens, il y a un sens aux rêves. Des fois, ils t'interpellent sur des choses, ils te font comprendre des choses. Il faut savoir les écouter.
Oui.
Il y a des civilisations où ils se racontent leurs rêves, en fait. Et moi, je faisais ça avec mes enfants. Le matin, on se racontait nos rêves. Et du coup, on s'entraidait pour essayer de comprendre des choses. C'est le subconscient qui parle. Enfin, moi, je le vois comme ça.
Oui. Et c'est aussi le corps, des fois, non?
Aussi, ouais.
Les Grecs, ils croyaient que le rêve, c'était le micro du corps. Quand okay. Le corps était malade, il t'envoyait un rêve pour te dire...
Prends soin de toi, quelque
prends
part.
Prends soin ouais. De toi, t'as ton estomac qui déconne.
Moi, je vois, parce que là, je relis mes rêves, du coup, en ce moment. Donc, les rêves qui ont 10 ans, les rêves qui ont plus, les rêves qui ont moins. Et après, sur le moment, le rêve, il te parle pas tout de suite. C'est quand tu le redis longtemps après, que tu dis, ah, mais en fait, c'est clair, quoi. Ça reflète ce passage de vie. Il y a tout dans les rêves, en fait. Mais sur le moment, des fois, on l'interprète pas, on le comprend pas.
Et on veut pas trop savoir.
Et peut-être. Puis, des fois, on fait du déni, quoi.
Oui.
Carrément.
On peut le faire.
Ouais. On balaye le truc.
On balaye.
Mais le fait de les noter, c'est vrai que c'est... Pour moi, c'était important de les noter, quoi. Et pour pas les oublier aussi. Des fois, tu fais un rêve, ça te prend, tu te réveilles le matin dans une certaine ambiance, puis tu passes ta journée, et cette ambiance, elle reste, bonne ou mauvaise, mais tu as perdu les éléments du rêve. Donc, les écrire au réveil, c'est le top. Des fois, on n'a pas le temps, on a autre chose à faire. Du coup, des fois, dans la journée, hop, un petit moment, et hop, on l'écrit, parce qu'on s'en souvient, on a perdu 2-3 détails. Enfin, c'est un truc important.
Et donc, tu vas nous en lire quelques-uns.
Ouais, une petite sélection de rêves d'il y a 10 ans.
De rêves d'il y a 10 ans. Ah, tu en as pas de plus.
Le dernier que j'ai noté, il y en a un que j'ai pas noté, il faut que je le note, je m'en souviens, il est bizarre. Il parle, il veut tout dire, mais très intime. Sinon, le dernier que j'ai noté, il est de 2020.
Ah.
Donc ça fait un moment que j'ai oublié de noter et que je suis passé à côté de ça.
Est-ce que tu penses que puisque tu as écrit tous tes rêves, si on les relit un peu dans le sens où un livre relit des pages,
ouais.
Tu vois, si on les relit, on a le livre de ta vie.
Non, parce qu'il y a des trucs, ça n'a rien à voir avec ma vie. Il y a des trucs, c'est ma vie, c'est des pensées, c'est des choses qui reviennent de ma vie, où il y a des éléments de ma vie, des personnages de ma vie. Il y en a, ça n'a rien à voir avec ma vie, quoi. J'ai l'impression de faire des films de science-fiction, des fois.
Ah, donc t'habites ailleurs, en fait.
Ouais, je dois avoir plusieurs dimensions. Je dois visiter plusieurs dimensions, ouais.
Peut-être que tu as une habitation ailleurs, sur une autre planète.
C'est bien possible qu'il y ait plusieurs planètes et qu'on navigue et qu'on ne le sait pas.
Bon. Tu nous en dis un ?
Allez. On va commencer par celui du 25 juin 2013. Ah non, pas celui-là en fait, c'est pas celui-là. Bon, si, on va lire celui-là. Du coup, là, c'est une insomnie. Je suis dans une insomnie. De 3h à 5h15, je dors pas. Et là, je m'endors. Et là, je rêve. Donc, je suis dans ma caravane, il fait nuit, je ne dors pas. Je regarde par la fenêtre, et là, je vois un grand type bizarre, genre le Yeti, qui pique mon linge sur les fils d'étendage, à une vingtaine de mètres. Du coup, je tape sur la vitre, et je l'ouvre, et je lui crie « casse-toi de là ». Et au lieu de ça, il fonce vers moi. Je referme la vitre et dis tout haut, mauvaise idée. Il rôde autour de la caravane un moment, puis s'éloigne. Je sors doucement pour aller voir les enfants dans la cabane à côté. Le plus grand est sorti, je ne sais pas trop ce qu'il fabrique. Il court, puis se colle au sol, comme pour se cacher. Je l'appelle et lui dis de venir avec moi, qu'un grand mec louche rôde pas loin. Juste à ce moment, je vois plein d'yeux au loin venir vers nous. Je réunis au plus vite les gamins dans la caravane. On reste là, enfermés, avec tous ces types qui tournent autour de nous et nous regardent par les fenêtres avec des sourires de fous furieux. Je leur souris aussi, un peu bêtement, et essaie de leur parler à travers la vitre, bien que je ne sois pas trop rassuré. Il y a un homme qui dort avec moi. Il dort encore. Je lève le drap et c'est le père de mes enfants. Nous sommes séparés quand même depuis 5 ans. Donc il dort plus avec moi à ce moment-là. Non, il ne se réveille pas. Les yétis zonards commencent à vouloir ouvrir la porte. Les enfants sont tétanisés. Je réveille brutalement le père. Il se lève juste au moment où la porte s'ouvre. Il se trouve juste devant. Je lui dis « Regarde, il y a plein de gens ». Il se retrouve face à face avec le plus grand type qui lui dit « Viens, on veut te faire un câlin ». Il tient un truc archaïque dans les mains. Ça ressemble à un démon de filtre à air. Enfin, il lui entoure les mains avec. Le père reste là, les yeux et la bouche grand ouverts, prisonnier. Moi, je me faufile dehors avec les enfants. Je pars en leur disant « Gardez le père, moi j'emmène les enfants, il faut sauver la nouvelle génération. » Personne n'essaie de me rattraper. Je ne cours pas, je vais à la voiture tranquillement, la peur au ventre quand même. Je me réveille, il est 5h50. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ce rêve ? J'essaye même pas d'analyser, c'était juste drôle. J'ai trouvé drôle.
C'était terrifiant sur le coup, non ?
C'était un petit peu... Ouais, c'est tendu, quoi. Mais il fait plus partie des rêves drôles, en fait, que des rêves angoissants.
Ouais.
Parce que c'est un peu débile, en fait. Et puis que je m'en sors tellement bien dans ce rêve.
Oui,
et que je refile le père.
C'est sûr. On voit bien la monnaie d'échange.
T'es là, toi, tu tombes bien.
Gardez le père, moi je sauve la jeune génération.
C'est ça.
Mais c'est l'image qui me frappe beaucoup, c'est ses yeux qui cernent la caravane. Tu vivais en caravane à l'époque.
Ouais. Cabane, caravane.
Et t'étais peut-être pas très rassurée.
Ah si, j'étais au top.
Ah oui ?
Ah ouais. Non, j'avais pas de...
T'avais pas de crainte ?
J'avais pas de crainte, c'était toujours ouvert. Tout était ouvert. Bon, les enfants étaient pas dans... Moi, j'étais dans la caravane, les enfants dans la cabane, donc effectivement, quand il y avait un truc un peu louche, j'allais toujours voir si ça allait bien. J'étais... Des allers-retours, mais non, je vivais sereine. C'était pas... Comment dire ? C'était pas l'ambiance... C'était pas l'ambiance de ma vie, quoi.
C'était pas Shining.
Non, non, du tout. Et le Yeti, en plus, d'où il sort, enfin, voilà. Après, j'ai des bouquins sur les rêves, avec plein de significations. Et quand je me fous dedans, en fait, la signification, l'image, la représentation, ça n'a rien à voir avec l'ambiance de mon rêve. Donc, j'ai arrêté d'essayer de les analyser.
Bah, surtout par l'entremise d'un livre qui donne des clés, mais ouais. En fait, les clés, chacun a sa clé.
Ouais, voilà, c'est ça. Crois. Après, il y a des codes couleurs, il y a des animaux qui ont une certaine signification. Mais il paraît que le serpent représente le sexe. Une fois, j'ai rêvé qu'il y avait des serpents qui sortaient de mes escaliers, mais il n'y avait aucune dimension sexuelle dans ce rêve, en fait. Donc, je sais pas, en fait, moi, j'ai arrêté d'essayer d'analyser par rapport au symbole, quoi.
Oui, parce qu'il y a des symboles dans une culture, mais
voilà.
chaque personne refait la mythologie dans sa tête à lui.
On a chacun nos symboles, en fait,
symboles,
je pense.
Oui, tout à fait. T'en as un autre ?
Allez, je vous en fais un autre.
C'est la même période ?
Alors là, on était... Qu'est-ce que j'avais dit comme date ?
2013, juin 2013.
Juin 2013. Là, j'en ai un de février 2013. Et celui-là, il est moins drôle. Donc, je me trouve dans un endroit clos, blanc, propre, presque aseptisé. Cela ressemble à un train. Il y a un mouvement, un déplacement. Il y a d'autres personnes, toutes très calmes. Des caméras sont présentes partout. Tout le monde a l'air conscient de la présence de cette surveillance, mais personne n'en parle. Surtout pas. Parfois, ce qui ressemble à un train s'arrête et on peut sortir. Dans une nature vierge et hostile. Les gens sortent, se promènent et retournent à l'intérieur du véhicule sans problème. Personne ne semble avoir envie de s'échapper, à part moi, qui cherche une communication pour ça. Mais cette communication n'est possible que télépathiquement et avec un seul être sur le véhicule. Je cherche à rejoindre d'autres wagons pour trouver des personnes susceptibles de partager cette conscience avec moi. Cela me fait penser à mon ami Gaël. Mais je ne peux pas vraiment me déplacer comme je veux. Trop de pression, de surveillance, il faut être vigilant. Celui-là, il est vraiment stressant.
Oui, il est vraiment stressant, oui. Et c'est presque, quand même, c'est vrai que c'est des nouvelles de science-fiction à chaque fois.
Oui, un peu. Il y en a pas mal comme ça.
Parce que les images sont très fortes, ce train aseptisé qui circule dans une nature vierge et hostile.
C'est vrai que je comprends que personne ne veut s'échapper quand je le relis, parce que la nature vierge et hostile, en fait, personne ne s'échappe, quoi.
Oui, et en même temps, le train blanc et aseptisé ne fait pas envie non plus.
Non. Avec des caméras partout et des gens qui osent pas se parler.
Moi, ça m'évoque vraiment notre société, tu vois, tellement sécuritaire, tellement obsédée par la sécurité, toute personne ne bouge.
Ouais, il faut rentrer dans le cadre, dans le move.
Faut rentrer dans le cadre et en fait, c'est des civilisations qui s'effondrent. Enfin, c'est des civilisations de terreur. Quand les gens vivent dans la terreur, ils ne font pas des choses très intéressantes.
Non, ils ne font pas des choses très belles non plus.
Ils ne font pas des choses très belles. Mmh. Ça, c'est sûr. Il suffit d'ouvrir les journaux.
Oui, la terreur, elle est partout.
C'est,
hein.
c'est pas terrible.
La télé, les journaux, la terreur.
Cette image de train blanc hyper aseptisé, ça me plaît vraiment. Mmh. Je vois bien... presque un film.
Non, mais il y a des... Je t'en lirai des... Il y en a des très longs, des histoires de ouf. Tu te dis, waouh, elle va chercher ça où ? Regarde trop de films, la fille, mais... Mais c'est vrai qu'on pourrait repartir d'une base et en faire des scénarios, parce que c'est un truc intéressant.
Parce qu'il y a des images puissantes. Mmh. Et c'est un peu comme ça que ça a servi dans la littérature, hein. Il y a des tas d'écrivains qui se sont servis des rêves pour dire des choses de la société, du fonctionnement humain, mais de la société. Hein. C'est très Brasile, ton train, là.
Ouais.
Tu l'as vu, le film Brasile ?
Non.
C'est absolument atroce.
Peut-être, je ne me souviens plus, parce que j'oublie la moitié des choses. C'est pour ça que je note tout, d'ailleurs. Même les rêves.
En fait, tu te refais ton cinéma gratos.
Voilà, c'est ça. Tu te dis, oh, tiens, il n'y a que des films pourris.
Oui, je
vais me relire mes rêves. Quoi. Que je suis avec Gégé, mon compagnon. Nous nous rendons chez le dentiste en voiture. Mais ce n'est pas l'adresse habituelle dans notre village. Cela ressemble plutôt à Aix-en-Provence. On se gare dans un parking souterrain. On monte un escalier. C'est assez vague. On entre dans un couloir et Loïc, le dentiste, nous fait entrer dans son cabinet. Gégé s'installe sur le fauteuil, Loïc lui trifouille dans la bouche. Moi, je suis derrière, je ne vois pas ce qui se passe et je suis occupée au téléphone avec quelqu'un. Et j'ai des tas de cartons et de documents dans les bras. Le dentiste a terminé, dit au revoir, Gégé se lève et sort de la pièce. Je me dépêche, je galère avec tout mon barda, je dis au revoir et je quitte la pièce également. Je me retrouve dans le couloir, personne, Gégé est parti. Je passe la porte, redescends l'escalier, mais je ne suis plus très sûre du chemin pour retrouver la voiture. Finalement, je me retrouve dans un parking souterrain, mais ce n'est pas le bon. Je repars en arrière pour retrouver le bon chemin, je suis perdue. Je rencontre Isabelle, une copine de mon amie Thalie, que je n'ai pas vue depuis au moins 7 ans. Je lui raconte ma mauvaise aventure, et là, je pense à téléphoner à Gégé. Mais quand je fouille mes poches pour sortir mon téléphone, je me rends compte que j'ai également le sien. Isabelle me dit de monter dans sa voiture pour m'emmener. Mais elle sort du quartier et se dirige vers une destination complètement contraire. Je lui dis que ça m'éloigne de l'endroit que je cherche, le parking souterrain. Là, elle s'arrête dans un garage. Je râle un peu, elle redémarre et continue de rouler. Je suis encore plus perdue qu'avant de monter dans sa voiture. Elle finit par retourner dans le garage. Je deviens folle, elle sort de la voiture, je la suis. Une femme la rejoint et lui donne des clés. Je comprends qu'en fait, elle est sur le point d'essayer une voiture. Je pète un câble, je lui hurle dessus et je lui dis ce que j'ai à dire et je me barre en courant. Je suis super énervée et stressée en pensant que Gégé doit m'attendre à la voiture sans aucun moyen de communication. Je cours, je marche, je monte dans un engin de forme cubique, en matière gonflable sur les arêtes et transparente sur les faces. Il y a de la musique à l'intérieur. Je chante pour essayer de déstresser et je saute pour faire tourner le cube. C'est comme un manège qui avance. J'arrive en haut de la côte, je quitte mon cube, je prends un chemin au hasard, je suis à bloc, angoissée. Je croise une femme qu'il me semble connaître. Je suis au bord des larmes. Je vais pour m'adresser à elle et lui demander de l'aide. Puis je réfléchis et me dis qu'il faut juste téléphoner à Loïc pour qu'il me donne l'adresse exacte du cabinet. Et de là, je retrouverai facilement ma voiture et certainement Gégé. À ce moment, je suis consciente d'être dans un rêve. Et je pense que d'appeler Loïc est un peu délirant. L'instant d'après, je sais que je peux le faire puisque l'appel fait aussi partie de mon rêve. Enfin, je décide de me réveiller pour retrouver tout simplement mon Gégé qui dort à côté de moi, ce que je fais. Dans mes rêves, je suis souvent seule, en fait. Enfin, seule dans ma panique ou dans mon orga. Je me retrouve souvent seule, quoi. Finalement, on est un peu seul dans la vie.
Oui.
En vrai, on est seul.
En vrai, on est complètement seul.
On est tout seul, quoi. Du coup, c'est vrai que dans les rêves, ça revient souvent, ce côté solitaire...
Et puis, il faut se débrouiller, quoi. Il y a un danger, il faut faire face.
Il faut s'adapter, ouais.
Il faut s'adapter, ouais.
Bon. T'en veux un plus soft ?
Non, enfin, non.
Plus court et plus mignon. J'en ai un mignon. Que j'ai sélectionné. Ouais, je trouve très mignon. Ça, c'est le 12 février. Du coup, c'est juste au réveil. Je suis dans une piscine avec mon plus jeune fils de 8 ans. On se baigne nu, la sensation est agréable. Et un gros bouc vient pour boire. Je protège le petit en lui disant de ne pas bouger. Le bouc nous regarde et grogne. Je ne bouge pas, rassure l'enfant. Le bouc continue de boire et de grogner. Alors je veux le faire partir. J'essaie de lui faire peur, mais ça ne marche pas. Il devient encore plus violent. Cette fois, je lui parle gentiment. Alors il se radoucit et se met à parler lui aussi. Il se transforme en humain et nous parlons ensemble, tranquillement. Il est sympa, celui-là.
Il est sympa. Et en fait, cet homme qui avait l'air d'un bouc est, au fond, pas si méchant que ça.
Voilà. Il arrive, oh, le gros bouc. Et en fait, si tu parles gentiment au bouc, il est gentil aussi. C'est
voilà une belle règle de
vie. Voilà,
une belle règle,
une belle règle de vie, ouais.
Super. Et t'en as pas une autre année qu'on puisse comparer ?
Je suis dans un petit véhicule volant, sans carlingue, avec d'autres personnes. Nous survolons la mer et des falaises. Le pilote vole de plus en plus bas, jusqu'à frôler la falaise. Un de mes genoux s'écorche contre une roche. Nous interpellons le pilote, qui est seul dans la cabine, et nous ne le voyons pas. Il ne répond pas, et pilote de pire en pire. Le moteur de l'engin semble faiblir, il n'arrive plus à reprendre de l'altitude. J'ai l'impression que nous sommes déjà dans l'eau, mais je respire normalement, la sensation est étrange. Puis on descend doucement jusqu'à enfin toucher l'eau. Je ne pense plus qu'à moi, j'oublie totalement les autres. Je suis dans l'eau, tout près d'une falaise, je veux m'accrocher, mais je me rends compte que le récif est en fait un crabe géant. Alors je lâche ses pattes et recule rapidement. D'énormes poissons me suivent, des espèces de murènes géantes nagent à fleur d'eau. Je me dépêche pour leur échapper. Je nage encore et regarde autour de moi. J'aperçois la falaise, des maisons et un chemin d'accès pour sortir de l'eau avec des escaliers qui sortent directement de l'eau. Je m'approche et dans cette zone, plus de danger. Juste des dauphins étranges au museau pointu. Ils sont très amicaux et m'aident à rejoindre l'escalier. Je peux sortir, gravir les marches et retrouve des personnes connues. Je suis sauvée.
Et tes rêves se terminent bien.
Ben là, ouais.
Ben oui, le Yeti, ça se termine bien.
Celui-là, ça se termine bien aussi, ouais.
Il n'y a pas de rêve qui se termine dans un hurlement et je me réveille parce que ça va mal tourner.
Ouais, peut-être que j'ai dû sélectionner ceux-là, inconsciemment ou pas.
Bon.
Mais oui, des fois, tu te réveilles en... Si, il y a un rêve où je trouve la tête de ma fille et je me réveille. Et là, heureusement, je me réveille. Enfin, en fait, tu te réveilles. Il y a des trucs tellement horribles que tu te réveilles et tu restes là-dessus, quoi. Mais là, par exemple, c'est 2010, 5 septembre 2010, il y a trois petits trucs notés. Ça se passe dans des véhicules volants, aérespace, je sais pas. Un individu essaie de prendre le contrôle, il assassine une femme, puis un homme, et enfin il est découvert, il disparaît. Bon, voilà, c'est un mini truc. Et dans le même temps, il y a un homme se mutile les mains et le dos. Ils sont bandés de linge blanc, maculés de sang, des coups qu'il met. Puis il en fait offrande, donc de son sang, quoi. Enfin, cette offrande est mangée sur des tartines, j'y goûte même. C'est un peu délirant, j'ai marqué, c'est un peu délirant. Bon, c'est pas vraiment horrible, c'est un peu délirant.
C'est,
quoi.
C'est un peu gore, quoi.
Ah,
quand
c'est
même,
gore, ouais, hein, c'est très gore. Hein, c'est...
Et tous ces véhicules-là, l'avion sans carlingue, le cube gonflé...
Ouais, mais ça,
gonflé,
c'est des trucs, je sais pas où ça...
Le train blanc... Alors que t'es pas une fan de véhicules...
Non,
t'es
pas trop.
Tu circules à pied...
Moi, ouais, pied, vélo, puis j'ai ma voiture pourrie.
T'as
quoi,
la vieille voiture pourrie.
Ouais.
Et donc, ce véhicule, c'est la vie qui t'entraîne, c'est...
Je sais pas, il y a une influence de peut-être de science-fiction.
Oui.
C'est vrai que l'avion sans carlingue, si je devais le dessiner, c'est un truc complètement délirant, quoi.
Oui, d'autant qu'on ne voit pas le pilote.
Voilà, le pilote, il est enfermé dans une cabine, et nous, on est derrière dans un espèce de filet, quoi, avec les jambes qui dépassent.
Mais donc, il y a un petit bout de carlingue, au moins.
Ouais, on a des fauteuils, mais on n'a pas le carénage sur les côtés.
Ouais, et le pilote, lui...
Et lui, il est planqué dans son truc, on ne sait même pas qui c'est.
Ah,
et
ouais.
En fait, tu commences un rêve dans un truc... Hop, tu te retrouves ping dans cette situation. Donc, je suis là, il y a des gens, il y a un mec qui conduit, putain, il m'arrache le genou sur les rochers. C'est le truc d'adaptation, il faut s'adapter. Tu arrives dans un truc comme ça, c'est assez bizarre.
Oui, c'est ça, il faut s'adapter.
Ouais.
Ouais. La vie est dure.
Bah, celui-là, il est horrible. Je viens de me laver les cheveux et mes dreads me restent dans les mains, toutes, une à une, se cassent. Ah, c'est assez horrible.
Tu connais l'histoire d'Orson Welles ? Et toutes les nuits, il rêve qu'il tient un scénario de film. Alors, mais le putain de scénario grandiose, génial, qui va conquérir le monde. Tous les matins, il se réveille, il a oublié. Alors un soir, il se dit, c'est pas possible, cette fois je vais me piéger. Il s'endort quasiment le carnet à la main avec le crayon à portée. Et il se réveille sur le matin et il écrit quelque chose dans un demi-sommeil dans le carnet en se disant, ouf, cette fois je le tiens. Le scénario sublime.
Super, super, ouais.
Super. Et il se réveille, il lit. Il a écrit « Boy meets girl ».
Super. Ouais, le scénario d'enfer.
Le scénario d'enfer.
C'était un rêve érotique ou...
C'est un rêve érotique.
Là, j'en ai un qui est un peu prémonitoire, en fait, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure. En fait, j'ai une minette qui est enceinte. Donc, dans mon rêve, je vois ma minette grise qui accouche de deux petits chats. Et puis je décide de lui, parce qu'on avait décidé qu'on gardait qu'un chat. Et du coup, je décide de laisser les deux bébés en me disant, oh, on va pouvoir les caser. Et puis après, il y a une chienne qui accouche également dans la même pièce. Elle a plusieurs chiots. Et comme ils sont dans la même pièce, je me dis, je vais les séparer pour éviter le stress. Et la chienne, elle mord les bébés. Et il y a un chiot qui a l'œil blessé avec du sang. C'est un peu gore à la fin. Et puis en fait, quand je me réveille, je me lève, tout ça, et la chatte accouche de deux chatons dans la matinée. Et il y en a un qui est mort-né.
Ah.
Le 5 janvier 2013, on est toujours en 2013, hein, je voyage dans celui-ci. Je parcours des contrées lointaines. Je consulte une carte où il y a un détroit. Je suis accompagnée de plusieurs personnes. Je décide de récupérer ma moto dans un garage pas loin de l'endroit. C'est une moto noire de 500 cm3. Le problème qui se pose à moi est pour mettre le casque avec tous ses cheveux roses. J'ai des espèces de rajouts fuchsia sur mes dreads et je me dis que ça ne va pas rentrer dans le casque. Donc finalement, je les laisse pendre dehors en espérant qu'ils ne vont pas se prendre dans les roues. Voilà. C'est très court. Le problème existentiel, quoi. Trop de cheveux.
Excellent, trop de cheveux. Et surtout l'idée que les dreads roses se prennent dans les roues de la moto. Non, mais ouais. C'est top.
C'est délirant. Surtout que j'ai passé mon permis de 125 quand j'avais 17 ans, mais j'ai jamais eu le droit de conduire une 500. J'ai jamais conduit une 500. Mais là, j'étais the warrior. La moto 500 et les cheveux jusqu'aux pieds, quoi.
Et les cheveux roses, les dreads roses.
J'ai un autre rêve sur la même période où je suis une petite fille blonde avec des cheveux frisés longs, une robe blanche et je vole entre les collines. Et je vole, quoi. Je vole. Et cette sensation de voler, c'était trop bien. Je vois le visage de Gégé qui me dit « Ne regarde pas ça ». Avec cet air définitif et presque triste qu'il peut prendre parfois. J'insiste et avance et découvre avec horreur le visage sans vie de ma fille. Image presque insupportable qui est gravée très clair encore dans mon souvenir. Ce qui explique le temps pour déposer cela sur papier parce que ça, j'ai marqué le rêve une semaine après en fait. Donc il a fallu que je revienne en arrière sur cette scène pour refaire un nouveau scénario avec toute ma conscience cette fois pour pouvoir trouver le sommeil cette nuit-là. C'est juste horrible, et je me suis réveillée. Je me suis dit, ah non, c'est pas ça que j'ai vu. Tu vois ? Non, j'ai pas vu ça. Pour pouvoir se rendormir, il faut imaginer un autre scénario.
C'est sur cette note de léger malaise que s'est clos ce tour d'horizon des rêves de Luciole. Car le rêve nous éloigne tant de notre désir de rationalité occidentale que nous avons quand même un peu de mal avec ce matériau nocturne. En témoigne Joseph Périgot, écrivain de son état, pas du tout disposé à composer avec la part obscure de lui-même.
Quand je rêve, quel pastis ! Normand, immigré en Provence, j'ai appris quelques mots de provençal pour pas me faire trop remarquer. Pastis, par exemple. Mais quand je dis « quel pastis », ça n'a rien à voir avec le Ricard tout aussi provençal. C'est une exclamation du genre « quel bordel, quel foutoir, quelle connerie ». Oui, mes rêves, les plus fréquents, sont des embrouillamini. Par exemple, la porte est ouverte. J'avance un pied, puis l'autre, pour sortir. Je ne bouge pas. J'insiste, 1, 2, 3, 4 pas, je fais du surplace. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La porte ouverte m'empêche de sortir. Et moi je m'acharne à enfoncer une porte ouverte. J'essaye à genoux, à plat ventre, à coups d'épaule, en prenant mon élan, la tête en bélier, que dalle. Je suis affligé. Je ne pourrais même pas le raconter, personne ne me croirait. Je me résigne... Donc, avec une piètre opinion de moi-même, quand je me réveille enfin, je suis encore tremblant. C'est con, les rêves. Je ne raccorde, moi, aucune poésie. Ce sont les sécrétions d'un corps qui s'oublie. Certes, il y a des rêves qui font rêver. On peut marcher sur les eaux et survoler la tour Eiffel avec ses propres ailes. Bon, ceux-là, ils sont pas très malins. J'ai, c'est vrai, une petite faiblesse pour les rêves érotiques. Mais quand on se réveille, on est plus seul que jamais. Alors, rêver, d'accord, mais bien éveillé, décidé à transformer la réalité.
Sur cette note mi-figue, mi-raisin, refermons notre petite fenêtre ouverte sur le rêve, avec l'espoir qu'elle vous aura donné l'envie de poser sur votre table de nuit un carnet et un crayon. Écrivez de beaux rêves et retrouvez le mois prochain les Buissonnières sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.